et vous êtes déterminé à réaliser vos projets les plus fous. Vierge, ne craignez pas de mettre la vitesse supérieure. Vous foncez sans vous poser de questions inutiles pour mener vos tâches jusqu'au bout. Balance, vous aurez les idées claires et des facilités pour en parler. L'équilibre est de retour dans votre vie relationnelle. Scorpion, vous tendez à être excessif dans vos jugements. Votre popularité pourrait chuter si vous n'y mettez pas plus de mesures. Sagittaire, la lune généreuse vous accorde son énergie dynamisante. Prenez cette opportunité pour régler ce qui doit l'être. Capricorne, vous devriez jouir d'une belle énergie et d'un tonus enviable. Alors mettez vos atouts en lumière, c'est le moment. Verseau, usez de diplomatie si vous souhaitez réellement qu'on vous apprécie. Votre forme morale est en baisse et vous manquez de sommeil. Poisson, une atmosphère paisible. Votre entourage familial apprécie cette situation de calme quand tout va bien, sans problème en vue.
Merci beaucoup Bénédicte.
Allez, bienvenue sur Sud Radio, il est 8h.
Parlons vrai.
Un nouveau journal avec Léo Ardourel. Bonjour Léo.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Il va falloir prendre son mal en patience aujourd'hui sur les routes. La circulation s'annonce très difficile dans le sens des retours, voire extrêmement difficile dans le quart nord-ouest où la journée est classée noire par Bison Futé après ce long week-end prolongé de l'ascension. Les lunettes connectées d'Arta France récompensées au concours L'Épine, un véritable tremplin pour la jeune start-up qui ambitionne de commercialiser son système destiné aux malvoyants d'ici la fin de l'année. Et puis on parlera rugby aussi ce matin. Toulouse, Stade Français, un choc au sommet du top 14 ce soir entre le leader parisien et son dauphin rouge et noir. Comme de nombreux Français, vous avez peut-être vous-même profité du long pont de l'Ascension pour prendre quelques jours de vacances. Mais c'est désormais l'heure du retour, il va falloir être patient si vous êtes en voiture. Bison Futé prévoit une journée rouge au niveau national et c'est même noir dans le quart nord-ouest du pays Gennebiard.
Oui, le plus gros du trafic sera concentré sur la façade atlantique, la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les axes qui desservent le littoral méditerranéen. Ça devrait commencer à bouchonner dès le milieu de la matinée et jusque très tard dans la soirée. Bison Futé recommande donc de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant midi. Évitez également l'A7 entre Salon de Provence et Orange de 11h à 13h et même jusqu'à 21h entre Orange et Lyon. Dans le sud, la circulation sera également perturbée en raison du relais de la flamme olympique dans les Bouches-du-Rhône. Elle passera notamment par Arles et Aix-en-Provence. Plusieurs routes seront fermées.
Un long week-end de jours fériés qui se termine donc bientôt et qui a permis à certains sites de battre des records de fréquentation. C'est le cas notamment du château de Chambord dans le Loir-et-Cher. Plus de 11 000 personnes ont été accueillies jeudi sur le site. Deuxième château le plus visité en France, on le rappelle, après Versailles. Dans l'actualité, également la Suisse remporte l'Eurovision. C'est le chanteur Nemo qui a été sacré cette nuit lors de la 68e édition du concours musical qui se tenait à Malmö en Suède. La France, représentée par Slimane, signe également une très belle 4e place. L'Israélienne Eden Golan, dont la présence a généré une vive controverse alors que son pays est en guerre contre le Hamas à Gaza, a quant à elle terminé en 5e position. Concours marqué aussi par l'exclusion des Pays-Bas quelques heures hier soir de la finale, et ce à cause d'un accrochage entre l'artiste néerlandais et une cadreuse en coulisses. Retour en France, où l'état de santé du policier blessé par balle jeudi dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris demeure préoccupant, annonce hier du parquet 48 heures après cet incident. On le rappelle, deux agents ont été blessés par un individu en garde à vue qui a réussi à subtiliser l'arme de service d'un des fonctionnaires et a ouvert le feu. Le jury du concours L'Épine a rendu son verdict. Le prestigieux concours qui récompense les inventions a décidé de décerner sa plus haute distinction, le prix du président de la République, à la start-up Arta France vendredi soir. Elle a mis au point un système destiné aux personnes malvoyantes, des lunettes connectées reliées à une ceinture qui permettent de mieux percevoir l'environnement. Ce prix est une véritable aubaine pour Louis Deveron, cofondateur d'Arta France, car cela va donner un vrai coup d'accélérateur à son invention.
Le concours L'Épine, contrairement à d'autres concours, est reconnu dans le domaine des inventions, dans le domaine de l'innovation. Et il y a des répercussions à l'international. Dès ce matin, nous avons déjà reçu des sollicitations de l'étranger. C'est-à-dire que dès que vous avez le tampon au concours Épine, c'est un gage pour tout le monde. Encore ce matin, là, vous voyez, j'ai reçu 3 nouvelles demandes en moins d'une heure là, de personnes qui veulent avoir le dispositif. Donc ça va vite. Et donc pour nous, c'est en tant que start-up, si vous voulez, c'est une aide en or.
Les lunettes connectées d'Arta France devraient être commercialisées avant la fin de l'année. Parmi les autres inventions récompensées, une douche cyclique qui permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie d'une douche jusqu'à 70%, ou encore une application qui propose gratuitement des guides audio et des vidéos pour mettre en avant le micro patrimoine local. On passe au rugby. Objectif, première place. Le choc de clôture de la 23e journée du top 14 oppose ce soir Toulouse au Stade Français. C'est le classique du rugby français, mais c'est surtout un duel entre le premier et le second du championnat. Le vainqueur du match sera en tête et se rapprochera des demi-finales. Après leur qualification pour la finale de la Coupe d'Europe, les Toulousains veulent se faciliter la fin de saison. C'est l'un des objectifs pour l'entraîneur des arrières, Clément Poitrenaud.
L'objectif, c'est de voir notre capacité déjà à enchaîner, à switcher après cette demi-finale de match avec un concurrent direct à la qualif qui a de grandes ambitions, voir ce qu'on va faire contre cette équipe. Donc voilà, les enjeux, il y en a plusieurs. Et les objectifs, oui, forcément, ce sera de rester vaincu à domicile et par la force des choses, récupérer cette première place. On va pas se mentir, on connaît l'avantage évidemment d'éviter ce match de barrage où forcément on y laisse de l'énergie, d'avoir une semaine de plus et de récupération et de préparation pour les demi-finales. Donc voilà, si on peut dès ce week-end se rapprocher de ces deux premières places qualificatives et se mettre entre guillemets à l'abri, c'est évidemment une chose importante pour nous et pour le groupe.
Toulouse Stade Français, c'est à 21h ce soir, rencontre à suivre en direct sur Sud Radio. Hier, l'UBB a également fait une bonne opération en battant La Rochelle 34-14, à retenir aussi la victoire de Clermont à Perpignan, de Bayonne face au Racing ou encore de Toulon face à Lyon. Très bonne journée sur Sud Radio.
Très bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup Léo Ardourel.
La météo Sud Radio.
Bon, il y a de l'orage dans l'air, Rémi André.
Oui, effectivement. Alors, on a déjà des averses ce matin dans le sud-ouest, notamment entre Pau, Agen, Brive, Limoges. Cela arrive actuellement vers Limoges. Nous avons également quelques averses entre Toulouse et Rodez, mais également entre Montpellier et Rodez, vous voyez, entre l'Hérault et l'Aveyron. Alors, dans le sud-ouest, cela dure pour l'instant, mais va remonter ensuite en direction du centre, du bassin parisien, de la Normandie. Et dans l'après-midi, tout cela se dirigera vers le nord et le nord-est. Le sud-est lui restera à l'écart, avec encore pas mal de soleil entre Marseille, Nice, ainsi qu'Ajaccio. Et puis les températures de l'après-midi seront à la baisse par rapport à ces derniers jours. Certes, il pourra faire encore jusqu'à 27 degrés dans le nord-est, notamment entre Nancy ainsi que Strasbourg, 25 à 26 degrés sur les bords de la Méditerranée à Marseille. Mais ailleurs, on va se contenter maintenant de plus de à peine 20 degrés, je dirais, du côté de Bordeaux ou 19 degrés à Brest. Vous voyez que les températures commencent à baisser et la semaine qui arrive ne sera pas bien terrible.
Merci beaucoup, ou plutôt merci quand même, Rémi André. Les pronostics hippiques de Sud Radio, direction Paris-Longchamp avec Jean-Paul Delperrier qui vous conseille de jouer le 3, le 4, le 7, le 16, le 6, le 13, le 8 et le 12. Je répète, 3, 4, 7, 16, 6, 13, 8 et 12. Des pronostics hippiques à trouver comme tous les jours sur sudradio.fr.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. On parle notamment politique avec cette question qu'on vous pose sur le Twitter et le YouTube de Sud Radio. Est-ce que vous souhaitez un débat, un nouveau débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? C'est une idée qui est poussée par le président de la République dans la presse. Pour l'instant, vous répondez non à 78% d'entre vous. Et on en parle tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. La semaine prochaine avec Sud Radio, gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 8h30 et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences Lagrange Vacances.
C'était le temps qu'elle nous rejoigne en studio. On en parle tout de suite avec Morgan Thomas pour la revue de presse. Bonjour Morgan.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
On revient notamment sur l'agitation au sein de la majorité présidentielle. Faut-il un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen afin de faire basculer les élections européennes? C'est à lire ce matin dans nos journaux.
Éviter à tout prix le scénario catastrophe, c'est-à-dire, et je cite, prendre une grosse tôle, être le troisième parti derrière le RN et le PS et risquer une dissolution. Rien que ça, c'est le branle-bas combat à l'Elysée, et c'est le Parisien qui le raconte ce matin. Récit de la nuit du 1er mai où le président brainstormait avec ses convives, parmi lesquels le sarkozyste Pierre Charon, encore Richard Ferrand, Hervé Marseille et j'en passe. Ce serait au cours de ce dîner qu'on lui aurait soufflé, effectivement, la fameuse idée d'un débat avec Marine Le Pen d'ici le 9 juin pour redresser la barre. Et Emmanuel Macron n'a pas dit non.
En revanche, les abonnés Twitter de Sud Radio, eux, disent non, comme je viens de le dire. L'urgence se fait sentir, en tout cas, puisque la liste Renaissance stagne à près de 15-16% des intentions de vote, Morgane.
Le président espère un vote utile, un pro-européen de dernière minute et atteindre les 22%, mais tous les scénarios sont sur la table aujourd'hui avec une obsession pour le locataire de l'Elysée, tuer la petite musique disant que le quinquennat est fini.
Oui, sans oublier la menace, je cite, d'une motion de censure des Républicains à l'automne.
Menace réitérée ce matin dans la tribune du dimanche à travers la voix de Gérard Larcher. Si le budget 2025 ressemble à 2024, je ne vois pas comment on pourra l'accepter contre le président du Sénat. Gérard Larcher accuse le chef d'État d'un déni de réalité. Il pointe un bilan décevant. Où est l'audace? Sur quelle réforme? Celle de l'immigration est passée grâce au Sénat, rappelle-t-il. Le nom de Gérard Larcher circule comme possible premier ministre de la coalition LR et Macronie, mais il confie à la tribune ce matin, j'ai l'impression qu'on ne perçoit pas le même pays, qu'on ne ressent pas la même France.
Effectivement, il y a de la friture sur la ligne entre les deux. Merci beaucoup Morgane Thomas. On vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure pour le journal des sports. Cet entretien dont vous parliez, il est à lire en tout cas dans la tribune dimanche.
AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente
Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus.
Bonjour Muriel.
Bonjour Jean-Marie.
Comment protéger les enfants dont les couples se séparent? On va en parler avec votre invitée, Marie-France Yarigoyen, qui publie ce livre, Séparations avec enfants, conflits, violences et manipulations. C'est publié aux éditions La Découverte. C'est une thématique qui vous tient à cœur, Muriel, et qui tient à cœur de beaucoup de Français qui nous écoutent.
Oui, aujourd'hui nous abordons un sujet crucial et souvent négligé, les violences post-séparation et leur impact sur les enfants. Ce sujet est d'autant plus essentiel que la stabilité des couples est de plus en plus précaire. Statistiquement, pratiquement un couple sur deux se sépare. En France, la durée moyenne d'un mariage est de 15 ans, avec un pic de séparation après 5 ans de vie commune. Impactés par ces évolutions, nos structures familiales sont en pleine transformation. La multiplication des familles recomposées, la coparentalité, bouleverse les repères traditionnels. Avec 63% d'enfants nés hors mariage en 2022, il est clair que les structures familiales classiques ont laissé la place à une plus grande diversité. Et ces transformations sont aussi visibles dans la dynamique des divorces, où les femmes sont à l'origine de près de trois quarts d'entre eux. Les raisons sont protéiformes. Émancipation, aspiration à un épanouissement personnel, volonté de construire une relation sur un sentiment amoureux, exigence d'équilibre, d'autonomie, d'égalité, de relations symétriques et de respect dans le couple. Cependant, les séparations, même socialement banalisées et simplifiées sur le plan légal, demeurent des épreuves humaines intenses, marquées par de profonds bouleversements émotionnels. Alors, dans ce contexte, quel est l'impact de ces séparations sur les enfants? La recherche en pédopsychiatrie offre des réponses claires. Ce n'est pas tant la séparation elle-même qui affecte les enfants, mais plutôt le niveau de conflit envers les parents. Le besoin fondamental de l'enfant est de se sentir rassuré sur son avenir, ses conditions de vie et sur les liens qu'il pourra garder avec ses figures d'attachement. Placer les enfants au centre des batailles judiciaires, les instrumentaliser, les expose à des conflits de loyauté, nie leur individualité et leur altérité. Une séparation sans conflit majeur n'a pas de conséquences graves sur le plan social et psychologique pour les enfants. C'est véritablement la façon dont nous gérons les conflits post-séparation qui est cruciale pour préserver leur santé mentale. Indifférence, rejet affectif, contrôle sexiste et mensonge, tout cela sont des menaces pour les enfants. En créant ou en laissant perdurer ces situations, nous les rendons victimes eux aussi.
Et on en parle tout de suite avec votre invitée qu'on accueille avec plaisir, Marie-France Yarigoyen, pour parler justement de son ouvrage. Bienvenue à vous sur Sud Radio.
Bonjour.
Vous êtes l'invitée de Muriel Réus.
Alors, chère Marie-France, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous nous avez, depuis de nombreuses années, éclairé sur des sujets majeurs tels que l'emprise, le harcèlement sexuel et moral, sur tous les ressorts de la violence. Ce livre, aujourd'hui, traite de conflits, de violences, de manipulations imposées aux enfants dans le cas des séparations. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, dans cette société où tout va très vite, près d'un couple sur deux se sépare, pourquoi, dans ce contexte de séparation souvent émotionnellement chargé, certains parents placent de façon inconsciente ou volontaire les enfants au cœur du conflit? C'est quoi les raisons sous-jacentes de cette réaction?
Les parents cherchent tous à protéger leurs enfants, mais malgré tout, lors d'une séparation, ils sont déstabilisés, il y a une émotion très très forte. En plus, il y a plein de choses à régler, des problèmes pratiques, le logement, l'argent, évidemment les enfants. Là-dessus, un gros changement vient du fait que les Perses, certains pères, enfin un certain nombre de pères, on va dire, s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation de leurs enfants et réclament à avoir un peu plus avec eux les enfants et si ce n'est obtenir une résidence partagée, au moins être un peu plus avec leurs enfants.
Et alors vous parlez un peu de transformation sociale et culturelle hein, quand vous dites les pères ont changé et demandent à avoir davantage leurs enfants. Est-ce que par exemple on dit que nous avons bousculé l'identité masculine et le rôle des pères dans la famille? Est-ce que vous avez le sentiment que cela ça influe la coparentalité, que ça joue par exemple dans les demandes de garde d'enfants?
Oui, alors c'est pas aussi et aussi simple que ça. La justice a amené des changements importants puisque l'autorité parentale, la puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale conjointe et que normalement père et mère ont les mêmes droits. De la même façon, depuis 2010, on peut demander une résidence partagée. Mais dans la réalité, les mentalités n'ont pas changé tant que ça. La plupart des mères continuent à réclamer la garde principale de leur enfant. Parce que c'est elles qui se sont occupées beaucoup plus de l'enfant, ce qui est vrai, parce que c'est la conséquence de l'inégalité de partage des tâches dans les couples, et qu'elles s'occupent beaucoup plus des enfants. Et beaucoup de pères travaillent, gagnent plus d'argent et considèrent que leur travail est plus important que le travail de leur femme. Et donc, au moment de la séparation, toutes ces inégalités sont rejouées, et l'enfant est au milieu de tout ça. C'est-à-dire, autrefois, quand on se séparait, qu'on soit divorcé, paxé ou simplement en cohabitation, quand on se séparait, le problème était la faute. Maintenant, les juges ne considèrent pas du tout la faute, mais considèrent qu'il faut justement un accès à l'enfant égal pour les deux parents. Donc l'enfant est complètement au centre de ça et les disputes se centrent sur, par exemple, un père peut dire « si tu me quittes, tu n'auras pas les enfants ». Ou une mère dira « puisque je m'en suis toujours occupée, tu n'as jamais rien fait à la maison, tu n'es jamais allé les chercher à l'école, eh bien, tu n'auras pas les enfants. » Et à partir de là, ben, ça peut être une guerre ouverte.
Alors quand même, regardons un peu les chiffres. Hein. Dans 80% des cas de séparation à l'amiable, c'est la mère qui obtient la garde principale. Dans les cas de désaccord, quand le juge tranche, il n'accorde que dans 24% des cas la résidence chez le père. Alors, si on lit transformation masculine, identité masculine, rôle des pères nouveaux dans la famille, et ces chiffres-là, j'ai un peu envie de vous dire, ça vous inspire quoi ces statistiques?
Bon, d'abord, ces statistiques, il faut faire attention, parce que ça ne tient pas en compte des arrangements amiables. Or, dans 70% des cas, dont je crois que c'est 80% des cas, la séparation se fait à l'amiable. Mm-hmm. C'est-à-dire maintenant, même oui, quand on est marié, on n'est pas obligé de passer devant un juge. Ça peut se faire devant un notaire et ça, c'est pas pris dans les statistiques.
En fait, le chiffre réel, c'est dans 80% des séparations à l'amiable, 70% des femmes obtiennent la garde.
Oui.
C'est dans votre livre. Hein.
Absolument. Mais pourquoi, quand ça passe devant le juge, pourquoi le juge n'accorde pas plus la garde, la résidence de l'enfant au père? C'est parce que les pères ne le réclament pas. D'abord, certains hommes sont encore dans un schéma ancien où elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants et moi je rapporte l'argent. Mais aussi pour des raisons matérielles et financières. Pour pouvoir être en résidence partagée, il faut pouvoir payer deux logements qui soient proches de l'école. Et c'est beaucoup de complications. Alors, je le disais, les pères, statistiquement, gagnent plus d'argent que les mères. Et leur travail leur paraît plus important que...
Mais c'est quoi les conséquences sur les enfants de ces conflits? Si on parle des enfants, là, c'est quoi les conséquences pour vous?
Les enfants, les enfants ont besoin qu'il n'y ait pas de conflit.
Oui,
c'est-à-dire, dans une séparation, les enfants ont besoin que papa et maman expliquent idéalement ensemble, on va se séparer, mais vous inquiétez pas, on va, vous irez à la même école, voilà, tu iras tel jour, vous passerez une semaine chez papa, une semaine chez maman.
Ça, c'est idéalement ce que vous recommandez, mais dans le cas de conflit, quand un enfant est sujet à des conflits parentaux très importants, et on y en a plein, on le voit bien, hein, dans ce qui nous remonte régulièrement, on voit bien que les conflits sont importants. C'est quoi la problématique? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Lui, il est quoi? Il devient un... Il se sent en sentiment de toute puissance? Il se sent pris en otage? Comment on règle ça avec l'enfant?
Dans la tête d'un enfant, les enfants, d'une façon générale, aimeraient rester neutres.
Bien sûr.
Ils n'ont pas envie de pencher d'un côté ou de l'autre. Si on leur explique bien... que on t'aimera toujours autant et tu pourras autant aimer papa et autant aimer maman, il y a pas de problème. Même quand il y a des conflits, si on arrive à dire ça. La difficulté, c'est que actuellement les enfants sont très sollicités. On leur demande leur avis. D'abord parce que dans la loi, c'est écrit qu'à partir
sept ans.
De...
Oui, 7 ans.
Âge de raison.
L'âge de raison est 7 ans dans la loi. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'un enfant à 7 ans est capable de prendre position entre ses parents sans subir de pression?
D'abord, ça dépend des enfants. Et en plus, 7 ans, c'est très jeune. Je crois qu'il y a des enfants qui, même beaucoup plus grands... c'est compliqué pour eux,
bah oui.
Très compliqué pour eux. Et puis, encore une fois, ça dépend du contexte. S'il y a eu violence conjugale avant et que les enfants ont été entendus par le juge, entendus par les policiers, par les juges, ils sont déjà très au courant. Et de plus en plus, les parents... peut-être pas les deux côtés, mais souvent un parent tente à expliquer le dossier à l'enfant. Il y a des enfants qui connaissent le dossier de séparation des parents mieux que les parents et qui donnent leur avis et donc sont manipulables.
Donc on va alerter les parents, surtout ne faites pas lire les dossiers de divorce à vos enfants, ce n'est pas la bonne technique pour leur santé mentale. Alors dans votre livre, vous abordez largement le concept d'aliénation parentale. C'est un concept qui est très décrié par les femmes victimes et par les associations de défense des droits des femmes. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que l'aliénation parentale est une des formes les plus graves de maltraitance psychologique de l'enfant. Dites-nous ce que vous mettez derrière ce concept d'aliénation parentale et dites-moi, vous en reconnaissez la validité? Vous pensez que ce syndrome existe réellement aujourd'hui?
D'abord, ce n'est pas un syndrome.
Ah, alors, allons-y.
Première chose, ce n'est pas un syndrome. Un enfant... peut souffrir d'aliénation, il peut y avoir de l'aliénation parentale. C'est pas un syndrome parce que c'est pas une maladie de l'enfant, mais c'est un dysfonctionnement de la famille.
Ça veut dire une prise de pouvoir, ça veut dire quoi?
Ça peut être un parent qui manipule consciemment, souvent inconsciemment, la plupart du temps inconsciemment, l'enfant pour l'amener... il faut revenir un petit peu en arrière. Quand on se sépare, on est très fragilisé, et en particulier sur le plan narcissique, on ne sait plus où on en est. Mmh. Et quand on est fragilisé, on peut avoir la tentation de récupérer un peu de narcissisme en disant c'est la faute de l'autre. Mmh. Ça, c'est banal et c'est normal. Mais c'est une étape. Simplement, il y a des parents qui sont plus en souffrance, en particulier si eux-mêmes ont vécu de ce type de difficultés dans leur enfance avec leurs parents, ou s'ils ont été agressés d'une façon ou d'une autre dans leur enfance, ils sont donc fragilisés, beaucoup plus fragilisés au moment de la séparation. Et ils peuvent faire inconsciemment amener l'enfant à s'éloigner de l'autre parent. Il y a une sorte de rivalité sur la meilleure parentalité. Ton père te nourrit que de McDo, ou bien ta mère est trop possessive. Voilà. Ça, c'est banal et ça peut se soigner si c'est repéré et si ce n'est pas aggravé par par les avocats. Qui sont souvent dont je vais faire gagner mon client. Si ce n'est pas non plus aggravé par la justice qui est beaucoup trop lente.
Oui, on va
mais
parler
il
de
y
justice,
a des cas, alors soit parce qu'un parent est dans grande souffrance ou où il y a eu, ou d'autres cas où il y a eu violence, eh bien, où l'enfant est carrément arraché à l'autre parent. Je prends l'exemple d'un certain nombre de pères qui pratiquent le contrôle coercitif dans le couple et qui, au moment de la séparation, vont jouer sur cette sur le critère de si tu me quittes tu n'auras pas les enfants, et l'enfant à ce moment-là se plie à cette violence qui lui est faite à lui, de se mettre du côté du père parce que sinon ça va impacter maman. Donc, vous parliez des associations de femmes victimes qui dénoncent ce concept, le concept d'aliénation parentale. Mais d'une part, ça existe, et ça existe autant de la part des pères que de la part des mères.
On va parler un petit peu de la justice. Hein. D'abord, il y a une question qui est, est-ce que la justice comprend suffisamment les notions de contrôle coercitif, d'emprise et de manipulation, utilisées très fréquemment pour asseoir une domination? Et puis, est-ce que l'organisation de cette justice est viable? On sait que les juges aux affaires familiales sont des juges généralistes qui, faute de temps, parfois appliquent des décisions standardisées et ne communiquent pas forcément avec le juge aux enfants chargés, des enfants en danger, ou avec le juge pénal. Est-ce qu'il faut remettre cette organisation complètement la transformer de façon radicale? Et ça sera ma dernière question, chère Marie-France.
Oui, alors tout le monde est d'accord, même les juges et même le garde des Sceaux, pour dire que le droit de la famille dysfonctionne en ce moment. D'ailleurs, il y a une réforme partielle qui se met en place pour organiser des pôles vifs, c'est-à-dire violence intrafamiliale. Actuellement, la justice est beaucoup trop lente. Il faut savoir que les JAF, c'est-à-dire les juges aux affaires familiales, sont des juges généralistes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas formés spécifiquement sur l'accueil des enfants. Or, si passer du JAF quand il y a violence, à quel moment un juge pour enfants est sollicité pour donner un avis, au fond tout ça, ça prend des mois, voire des années.
Ça prend des mois, voire des années, sauf qu'en audience, parfois, ils mettent un quart d'heure pour décider de la vie d'une famille, la vie des enfants. Donc il y a un paradoxe total entre cette justice qui aujourd'hui a besoin d'être réorganisée et des moyens qui sont accordés à la justice.
Absolument, là il y a vraiment une réforme à faire et c'est extrêmement important, pas simplement pour les parents, surtout pour les enfants.
Alors, on va lire votre livre. Et on va en savoir beaucoup plus.
Exactement, et on saura surtout tout ce qu'il ne faut pas faire si jamais, comme un Français sur deux, on venait à se séparer plus tard. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Marie-France Irigoyen. Je rappelle votre livre, Séparations avec enfants, conflits, violences et manipulations. C'est publié aux éditions La Découverte. Merci à vous également, Muriel.
À dimanche, Marie.
Et je vous remercie.
Merci.
Sud Radio, le grand matin week-end. La force de l'engagement, Muriel Réus.
Avec Agipi, association d'assurés engagés et responsables.
Il est 8h28 sur Sud Radio. À suivre, 180 chefs de grandes entreprises étrangères attendus à partir de demain à Versailles pour le 7e sommet Choose France animé par le président de la République. Est-ce que la France est redevenue une terre d'investissement? On va en parler avec notre invité juste après les infos.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8.
Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je pourrais vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence.
Sud Radio, parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer
97.9.
Sud Radio.
J'ai vu des idées de génie.
Chérie,
toi, t'es encore allé chez Jiffy.
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres?
Ah oui, ils ont un large choix de cache-pots 10 litres à seulement 1,99€.
Waouh!
En ce moment chez Jiffy, les cache-pots 10 litres sont à seulement 1,99€. Et les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros.
Au bon prix Jiffy, on plante tout.
Offre sur le terreau, valable jusqu'au 15 mai.
Jiffy des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
Soyez les bienvenus sur Sud Radio, il est 8h30 tout pile.
Parlons vrai.
Suite les informations avec Nicolas Gomez, bonjour.
Bonjour à tous. La musique qui a adouci les mœurs le temps d'une soirée. C'était la finale de l'Eurovision hier à Malmö en Suède. Slimane pour la France termine quatrième. La Suisse remporte le concours grâce à son artiste non-binaire Nemo. Cette semaine précédant la finale avait été émaillée de plusieurs incidents avec l'exclusion hier des Pays-Bas à quelques heures des prestations à cause d'un accrochage entre l'artiste néerlandais et une cadreuse en coulisses, mais aussi des manifestations pro-Palestine dénonçant la participation d'Israël. Israël qui continue ses bombardements dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a relancé son appel à une évacuation immédiate de Rafah, cette grande ville du sud. Depuis lundi, près de 300 000 Palestiniens ont quitté les quartiers, déplacés vers la zone humanitaire d'Al-Mawasi. Le président américain Joe Biden estime de son côté qu'un cessez-le-feu serait possible demain si le Hamas relâchait des otages. 9 prisonniers toujours recherchés dans l'Hérault. Dans la nuit de vendredi à samedi, 10 détenus ont pris la fuite d'un centre de rétention à 7, soit près d'un tiers de l'effectif total du centre. Les évadés seraient passés par les combles du bâtiment, mais l'alarme ne s'est pas déclenchée. D'après la préfecture, l'un d'eux a été repris. Le syndicat Alliance Police dénonce un manque de moyens humains. En Géorgie, près de 50 000 manifestants réunis pour dire oui à l'Europe. Hier soir, à Tbilissi, la capitale du pays, les habitants ont célébré l'Europe et ont dénoncé la violence du pouvoir de ces derniers jours envers des ONG. Le Parlement s'apprête à voter en dernière lecture la loi dite loi russe. Ce texte imposerait aux médias financés à plus de 20% par d'autres pays de se déclarer comme agents de l'étranger. Et puis en foot, 33e journée de Ligue 1. Ce soir, Clermont reçoit Lyon à 21h. Le LOSC se déplace chez les Canaries à Nantes. Montpellier affronte sur sa pelouse Monaco. Et puis un match attendu par les fans, PSG-Toulouse. Ce sera le dernier match pour Kylian Mbappé au Parc des Princes. Le joueur a annoncé son départ du club vendredi soir. Voilà pour l'actu. Bonne journée à tous.
Et bonne journée à vous aussi Nicolas. Merci beaucoup.
La météo Sud Radio.
Et attention aux orages Rémi André.
Oui, effectivement, nous avons cette situation orageuse qui se met en place avec donc ces averses maintenant qui remontent depuis le sud-ouest, l'Occitanie et l'Aquitaine, en direction donc du centre du Limousin, mais également donc de l'Auvergne. Cela va continuer de remonter en direction donc de la Normandie, du bassin parisien, ainsi que les Hauts-de-France, les Ardennes et dans la soirée en direction donc du nord-est. Le sud-est lui restera à l'écart avec dès ce matin des températures qui sont plutôt comprises entre 8 et 17 degrés. Des températures qui, dans la journée, évidemment, par rapport à ces derniers jours, seront nettement à la baisse, puisque ces températures ne dépasseront plus les 19 degrés à Brest, 20 degrés seulement à Bordeaux. On atteindra partout ailleurs entre 22 et 27 degrés. Les 27 degrés, vous les aurez encore sur l'Alsace et la Lorraine. Et ce temps pluvieux va se poursuivre demain encore, journée de transition avant l'arrivée des grosses perturbations de la semaine. C'est-à-dire que la semaine va redevenir pluvieuse, automnale et plus fraîche.
Merci beaucoup Rémi André.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Si vous avez suivi ce qui s'est passé cette nuit, non, la France n'a toujours pas gagné l'Eurovision, toujours pas depuis les années 70. On continue à perdre malgré la très belle performance de notre chanteur national Slimane qui a fini quatrième. C'est la Suisse qui a gagné, un chanteur qui se nomme Nemo, qui propose un titre électro. On va en parler dans une demi-heure avec le mélomane de Sud Radio, c'est-à-dire Yvan Cujur, ce qu'on retrouve toutes les semaines pour le Loft Music. Quels étaient ses favoris? Qui étaient ses coups de cœur? Pourquoi cette cacophonie? Ces milliers de manifestants qui voulaient empêcher une jeune femme israélienne de chanter et en même temps ces autres gens qui se sont pris de passion pour l'Eurovision uniquement parce que pour une fois on y parlait politique. On reviendra sur tout ça dans une demi-heure, mais tout de suite parlons de la réindustrialisation. Avec notre invitée Sophie Sidos-Vica, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes présidente des conseillers de commerce extérieur de la France, les CCE. À partir de demain, c'est une grand-messe. C'est devenu un rituel hein, depuis l'élection du président de la République, Emmanuel Macron, en 2017. Ce sommet qui porte un nom anglais, mais qui concerne la France. Choose France à Versailles. 180 chefs de très grandes entreprises étrangères attendus à Versailles à partir de demain pour annoncer, mettre en scène en quelque sorte leurs investissements en France. Un aspect notamment, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui, c'est une information du Parisien, près d'1 milliard d'euros d'investissements attendus sur la seule filière pharmaceutique, les grands groupes, notamment 500 millions pour Pfizer. Ça ressemble à quoi ça? Ce sont des chiffres, mais pour ceux qui nous écoutent concrètement, c'est quoi? C'est des nouvelles usines?
Oui, concrètement, c'est des nouvelles usines. Pour l'instant, c'est des projets. Mmh. Après, les projets, il faut les concrétiser. Mais oui, c'est des nouvelles usines, c'est des nouveaux investissements, c'est des entreprises étrangères qui vont ou augmenter ou doubler leur taille d'entreprise déjà installée sur le sol, ou c'est des créations, des greenfield. Alors, on n'est pas excellent dans les greenfield si on compare la France.
Greenfield, traduction.
Ah, pardon, oui, c'est vrai. Là, on est dans le Choose France.
On est en France.
C'est bien. Donc, c'est de la création, de la construction d'une entreprise neuve sur un territoire.
Voilà.
Donc, alors, avec nos lois zéro artificialisation nette des sols, loi ZAN, c'est pas toujours évident. Donc
De la place pour construire de nouvelles usines. Du coup, comment vous faites pour attirer ces investisseurs?
Alors, la France, je vais pas vous cacher, c'est une terre aujourd'hui très propice. Nous avons les Jeux Olympiques, nous avons la Coupe du Monde de rugby qui s'est extrêmement bien passée. On a quand même plein d'événements. On va avoir la réouverture de Notre-Dame, on va avoir le Forum de la Francophonie. Ça fait plus de 33 ans qu'on n'a pas eu ce forum chez nous. On a énormément d'événements et on va profiter de ce tremplin pour donner, avec les Jeux Olympiques, un tremplin sur nos investissements.
Alors ça, c'est de la symbolique, ça c'est vrai, vous avez raison, vous montrez qu'il se passe plein de choses en France. Mais à quel moment, le patron d'un énorme groupe pharmaceutique ou industriel, n'importe lequel étranger, se dit, tiens, ils vont rouvrir Notre-Dame, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, en ce moment, c'est le bon moment pour investir. Ça, c'est plus pour qu'on parle de nous, mais après tout, concrètement, il faut de l'argent sonnant et trébuchant.
Oui, tout à fait, mais quand ils viennent chez nous, ils aiment la France. Mmh. On a eu la visite, par exemple, c'est un signe très fort du président chinois. C'est le premier pays qu'il a commencé à visiter en Europe, c'est la France. Il n'est pas allé ailleurs. Mmh. Pourquoi la France? Pourquoi est-ce qu'on vient chez nous? On vient chez nous parce qu'on est bien chez nous. Il fait bon vivre chez nous. Alors, c'est vrai que quand on allume les radios, les médias, on n'est pas très optimiste.
Et pourtant, vous êtes chez nous sur Sud Radio ce matin. C'est vrai qu'on n'est pas optimiste, mais on va en parler.
On n'est pas optimiste, on n'est pas attractif. Mm-hmm. Mais quand on a vu cette magnifique campagne sur l'attractivité de la France, sur Makita Iconique, alors on va encore parler en anglais parce qu'en effet, cette campagne était développée à l'étranger. Mm. Qu'à l'étranger, on parle malheureusement pas assez français.
Rendez ceci iconique, c'est ce que vous avez proposé comme slogan à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez rendre iconique?
Alors, nos bâtiments, tout ce qu'on a en France, nos hommes, notre savoir-faire, et aujourd'hui, c'est plus que ça, c'est aussi notre intelligence artificielle, c'est notre développement, c'est toute notre recherche, toute notre R&D, qui aujourd'hui, nous inventons des brevets tous les jours.
R&D, recherche et développement, tiens, on a parlé hier avec les vainqueurs du concours Lépine, notamment cette invention géniale qui permet de rendre la vision à des non-voyants ou des malvoyants juste par des sensations sur une ceinture dorsale. Bref, on innove en France. Là, on a parlé un petit peu de tourisme, on a parlé de symboles aussi avec vous. Vous dites, on se sent bien, mais après tout, bon, un grand patron, ça peut venir en vacances en France. Et d'ailleurs, ça vient souvent en vacances. En revanche, pour créer des emplois, il faut que ça coûte pas cher. Pourtant, vous nous dites, c'est les médias qui sont pas optimistes, mais j'ai entendu un certain nombre de fois le président de la République ou alors ses ministres dire, en France, le travail coûte trop cher. Qu'est-ce qui fait qu'on vient ouvrir des usines en France alors que ça coûte deux fois plus cher en France qu'en Roumanie, par exemple?
Oui, vous avez raison. On a un problème de compétitivité sur le coût de la main-d'œuvre et puis sur la recherche de cette main-d'œuvre. Parce qu'on n'en a pas indéfiniment des ingénieurs. Pour nos EPR, il va falloir 10 000 personnes en plus qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, qu'on va créer, qu'on va trouver, qu'on va développer. Donc on a beaucoup, beaucoup de projets en vue à faire en France, donc ça c'est un espoir, mais en effet, il va falloir s'améliorer sur la compétitivité.
Et ça veut dire quoi s'améliorer sur la compétitivité? Parce qu'après tout, c'est un peu la quadrature du cercle. On a parlé de baisse du pouvoir d'achat, s'améliorer sur la compétitivité, ça veut dire moins payer les gens concrètement?
Non, ça veut dire avoir une Europe plus forte, avoir des frontières à l'Europe, avoir une taxe aux frontières, de façon à ce que nos produits soient compétitifs par rapport aux produits qui arriveront en France. Mmh. Et ça, on y travaille avec les élections européennes. On a complètement changé, du reste, le débat sur les élections européennes. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une Europe forte qu'on veut. C'est valoriser nos produits. Et sans cela, on n'y arrivera pas. Moi, je suis convaincue qu'on a tous les éléments en France pour faire une bonne mayonnaise, pour y arriver. Mmh. On a une politique avec France 2030 portée par le président de la République qui réussit. On voit des nouvelles, il a créé depuis 7 ans 300 usines supplémentaires en France. Mmh. On se rend compte que ce n'est pas uniquement à Paris, hein, et même c'est même pas du tout à Paris, c'est dans toutes les régions de France. Moi personnellement, vous savez que je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. Et je dois quand même dire que dans mon territoire, on est très très fiers que ces projets aient été des réalisations. C'est là où on a créé le plus finalement d'industries, puisqu'on a créé 73 industries l'année dernière sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc c'est la réindustrialisation en marche, pardonnez-moi. Oui. Vous parliez des européennes à l'instant. Ça, c'est un argument de campagne. Vous n'êtes pas une représentante de la majorité, je le reprécise d'ailleurs. Votre titre, c'est d'être présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Malgré tout, on a des élections régulièrement. Mm-hmm. Ce que vous vantez comme résultat, c'est censé être les résultats d'une politique. Et cette politique, elle est contestée par des partis qui ont le vent en poupe dans les sondages. Loin s'en faut, notamment pour les élections européennes. Est-ce que un Rassemblement national deux fois plus puissant que ce qui reste de la majorité présidentielle aux européennes, ce serait de nature à décourager des investisseurs étrangers. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne voulez pas parler politique.
Alors,
mais
je ne suis pas du tout politique, vous le savez. Hein. Oui, mais je ne suis pas du tout. Moi, je suis vraiment pro-entreprise. Je suis présidente du MEDEF Isère. Donc, ce que j'aime, ma vie, c'est les entreprises. C'est dans l'entreprise.
Les chefs d'entreprise ne regardent pas la politique.
La religion et la politique, c'est à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est clair. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer, c'est se développer, c'est structurer. Bon, quel que soit le parti politique, il faudra parler d'entreprise. On ne pourra pas vivre sans les entreprises, évidemment.
Parler de protectionnisme, par exemple. Oui. C'est la thèse de plusieurs candidats, pas seulement celui que j'ai cité auparavant. Oui. On va parler parfois de taxes pour certains, c'est des candidats à gauche. Bon, tout ça, les chefs d'entreprise, quoi qu'il arrive, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, ils écoutent. Donc c'est quoi, comment le climat politique français, je vais poser cette question de manière un petit peu plus neutre, pèse sur les affaires?
C'est pas évident. On prend un petit exemple. Le CETA, l'accord avec le Canada, c'est un accord qui est bon pour les entreprises. Eh bien, il a été rejeté.
Mmh. Si vous dites ça aux électeurs, aujourd'hui, ils en ont peur. Les sondages le montrent d'ailleurs. Ces accords font peur.
Oui, parce qu'ils sont mal expliqués au monde des entreprises. Alors, pour certaines entreprises, ils vont peut-être être défavorables, mais quand on prend la majorité des autres entreprises, c'est favorable. Et souvent, on regarde juste la minorité. C'est cette minorité qui parle toujours. Mmh. Il faut arrêter de regarder les choses de cette façon-là. Il faut regarder les choses en globalité. La globalité, c'est que ça nous rapporte, pour notre balance extérieure de la France, ça nous rapporte de l'argent et que c'est très positif. Ça supprime toutes nos charges sur les fromages, par exemple. Mm-hmm. Autrement, on est taxé à 200% et là, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre les choses dans son ensemble. Je pense qu'on a la chance d'avoir un gouvernement avec en particulier Bruno Le Maire qui sait ce qu'il fait. C'est les intérêts de la France avant tout. Notre président passe son temps à faire des voyages à l'étranger pour trouver des investisseurs étrangers pour développer, les investir, qu'ils puissent venir investir en France. Ils discutent énormément avec les patrons.
C'est ce qui se passera d'ailleurs à partir de demain. Quels sont les secteurs industriels? J'ai parlé du secteur pharmaceutique, puisque manifestement c'est un des gros axes de ce sommet, ce 7e sommet de Choose France. Oui. Quels sont les autres secteurs qui voudront investir, qui devraient investir lourdement en France?
Alors, tous les secteurs peuvent investir en France. Là-dessus, il n'y a pas de...
Mais ceux qui sont pressentis, c'est ça que je veux dire.
On a 5 gros secteurs qui ont été mis en avant. Il y a d'abord l'intelligence artificielle, l'informatique quantique. Vous savez que là, il va y avoir des signatures très importantes dans ces domaines-là. L'espace aérien, bien sûr, Ariane 6, le président l'a rappelé, c'est une priorité dans son programme. La biothermie, et puis toutes les nouvelles énergies, les batteries, ça on en parle toute la journée.
Notamment les gigafactories qui devraient être construites dans le Nord en particulier. Certaines grandes boîtes qui fonctionnent extrêmement bien du côté de Grenoble, c'est important aussi de le rappeler. Voilà, le Vercor notamment,
Vercor
les
avec
Arsus.
Un K, voilà,
Vercor avec un K, qui est une grande boîte française.
On a notre recherche et développement sur Grenoble. C'est vrai que là, on a surtout annoncé Amazon, IBM, Pfeiffer, Prolegium,
Temasek,
des grands groupes. Mais il y a beaucoup de petits groupes. Moi, personnellement, je représente l'entreprise familiale, celle dont on a confiance. Quand j'investis, moi, dans un pays, j'investis pas pour 3 ans. Mmh. J'investis un minimum de 100 ans. Quand j'achète une carrière, c'est 100 ans au minimum. Et donc, quand les patrons viennent discuter avec moi, ils ont confiance parce qu'ils savent que c'est pas pour 3 jours. Et ils savent que ce que je leur vais leur proposer, ça sera du long terme. Ça sera pas pour eux, ça sera pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et qu'ils s'y retrouveront.
Quels sont les pays que vous voulez voir investir en France le plus? On a parlé de groupes américains. Ouais. Quels sont les autres pays qui investissent en France?
Écoutez, dernièrement, moi, je suis partie faire une tournée au Japon avec le président Wauquiez en particulier. Ça s'est très bien passé. On a eu pas mal de touches d'entreprises qui voulaient venir, qui sont venues visiter et qui vont, je pense, investir. On a aussi, la semaine dernière, avec le président Emmanuel Macron, rencontré des entreprises chinoises. Moi, j'ai rencontré des patrons chinois qui veulent investir en France. On a des entreprises américaines qui veulent investir en France. Je pense que grâce à Business France, parce qu'il faut quand même souligner qu'avec Laurent Saint-Martin, le patron de Business France, et nous, les CCE, on fait partie avec lui de la team France Export, et bien les relations sont très bonnes. On fait ce qui s'appelle le chasser en meute, on travaille ensemble et ça se passe bien. Et concrètement, dès que nous, les patrons français basés à l'étranger, on rencontre des entreprises qui veulent investir, on en parle à team France Export, à Business France, et Business France fait le job et les ramène chez nous. Et tout cet écosystème de travailler tous ensemble, ça marche.
Ça marche, en tout cas, c'est ce que vous espérez.
Oui.
Quand vous disiez que les Français étaient trop pessimistes, comment vous l'expliquez? C'est votre sensation, parce que vous parlez des grands patrons. Nous, on a reçu beaucoup de petits patrons. C'est eux aussi qui embauchent beaucoup en France et qui ont beaucoup de difficultés en ce moment. Donc, comment vous expliquez ce paradoxe?
Oui, alors c'est vrai, mais simplement, quand on regarde les chiffres, c'est quand même les grandes entreprises qui exportent le plus. Même si c'est vrai que c'est ce qui manque dans le système français, c'est les ETI, c'est le développement de ces petites entreprises
de taille intermédiaire.
Quand on regarde en Italie, vous avez 200 000 entreprises de taille intermédiaire qui exportent, et ça, on l'a pas en France.
Et ces entreprises, elles sont situées en général dans la moitié nord du pays, même moins que la moitié, et l'industrie italienne est un petit peu plus puissante. Qu'est-ce qui pourrait faire que demain la France retrouverait sa place en termes industriels?
Il faut raisonner français, il faut européen.
A priori,
on
raisonne français. Oui. Européen, c'est-à-dire, parce qu'on est en concurrence avec les autres pays d'Europe aussi.
Oui, on est en concurrence aujourd'hui dans les marchés. Quand vous lancez un marché, vous êtes obligé de lancer un marché européen. Vous pouvez pas privilégier votre marché chez vous, malheureusement. On n'a pas le droit. Mais donc, si on prend par exemple l'étude EY sur l'attractivité qui vient de sortir, cette étude, elle nous renforce. C'est la 5e année consécutive que la France est le pays le plus attractif d'Europe. On peut pas quand même se cacher les yeux. Il y a quand même une politique française qui marche et qui avance. Peut-être trop lentement. Oui, trop lentement. Pourquoi? Parce qu'on a une dette trop importante et qu'on n'a pas assez d'argent. C'est vrai que si on prend l'IRA où on a des investissements financiers qui sont énormes, eh bien, on en pâtit un peu en France. Mais tout de même, la France, ça avance. La France se réindustrialise. Pas assez vite, mais elle se réindustrialise. Il faut plus de petites entreprises. Je suis d'accord.
Et effectivement, il reste à transformer l'essai. Après tout, que ça aide, continue à aider le chômage à reculer. On en reparlera toute la semaine, en tout cas sur Sud Radio. Merci d'être intervenue ce matin, Sophie Sidos-Vica.
Merci beaucoup, conseiller du commerce extérieur de la France.
Celle que vous êtes, la présidente précisément, des conseillers du commerce extérieur de la France et nos VRP en fait.
Oui, tout à fait.
Suffisait de le dire comme ça. À suivre sur Sud Radio, quelque chose de bien français, le rugby sur Sud Radio. La radio du rugby, vous avez parlé de la Coupe du Monde, ça s'est mal terminé sportivement, mais en tout cas le top 14, lui, se passe très bien, on en parle dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
Sud Radio Rodez.
104.4.
Sud Radio.
Alors nous, on voudrait une cuisine...
Avec des tiroirs qui font...
Chut. Mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Superdiète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France, présente
Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serra.
Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Marie.
Vous êtes sophrologue, vous consultez pour tous les problèmes liés au stress ou alors au manque de sommeil. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment et de quelle manière, surtout, la musique peut agir pour notre bien-être.
Eh bien, la musique occupe une place essentielle dans notre vie. Vous avez certainement constaté que dans la rue, dans les transports en commun, beaucoup de gens écoutent de la musique. La musique est d'ailleurs le premier centre d'intérêt chez les 11-18 ans. Et ce phénomène est parfaitement compréhensible, car l'être humain est avant tout un être sonore.
Tiens, un être sonore, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est d'abord par l'ouïe que chacun d'entre nous a perçu le monde extérieur, et cela dès notre troisième mois de vie intra-utérine. Alors les bruits extérieurs parviennent au bébé filtrés par la paroi abdominale et le liquide amniotique, et plus tard, comme tout le monde a pu le constater, les bébés, les petits-enfants se calment et s'endorment plus facilement lorsqu'on leur fait écouter de la musique ou lorsqu'on leur chante des comptines. On comprend mieux pourquoi le son et la musique sont essentiels dans notre vie.
Alors quel type de musique peut agir aussi sur notre bien-être ?
Alors, il y a des musiques rythmées qui stimulent et qui dynamisent. Ce sont celles qui ont un tempo supérieur à 100 battements minute, comme le rock, la disco, par exemple, qui donnent envie de bouger. Et moi, en tant que sophrologue, je m'intéresse plus particulièrement aux musiques qui ont des vertus anti-stress.
Alors, c'est quoi ces musiques anti-stress ?
Alors, certaines musiques classiques, et en particulier Mozart, qui est très prisé par les musicothérapeutes, et également les musiques douces et relaxantes au tempo lent, en deçà de 70 battements minute, ces musiques nous aident à nous détendre, ce qui stimule la production d'endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Donc des musiques qui ont des vertus anti-stress, calmantes et euphorisantes.
Alors j'imagine, Carole, qu'en tant que sophrologue, vous utilisez ce type de musique pendant vos séances.
Tout à fait, je travaille avec le compositeur musicothérapeute Laurence Topnicki qui effectue des recherches sur l'impact des vibrations sonores sur les émotions. Je vous fais écouter ça dans quelques instants.
Et alors Carole, est-ce qu'on peut évaluer scientifiquement les effets de ces musiques ?
Oui, grâce aux IRM, les neuroscientifiques ont étudié les effets des musiques méditatives sur le cerveau. Ils ont constaté que le cerveau passait des ondes bêta, qui correspondent aux activités courantes, en ondes alpha, qui favorisent la détente.
Ah, on peut donc utiliser la musique à des fins thérapeutiques.
Tout à fait. On sait aujourd'hui que c'est efficace pour traiter des troubles neurologiques. D'ailleurs, Olivier Sacks, un célèbre neurologue américain, l'utilise avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et même avec des autistes.
Alors ça, c'est pour nous les humains, mais on prétend que certaines musiques favorisent la croissance des végétaux. Vrai ou pas vrai ?
Non, vrai. En effet, plusieurs études montrent que les vibrations sonores ont un effet sur la santé des plantes. Mmh. Quand on diffuse de la musique dans les serres, on obtient une amélioration très nette des récoltes. C'est fantastique.
On a une idée des goûts musicaux des plantes, plutôt rap ou plutôt rock, Carole ?
Eh bien non, pas du tout. Des études récentes montrent que les plantes préfèrent la musique classique et les musiques douces qui ont une fréquence inférieure à 1000 Hz et cela favorise leur croissance.
Oui, ça permet de pousser lentement. Chez les animaux, ça donne quoi ?
Bien, on a découvert que les vaches laitières qui écoutent de la musique ont un meilleur rendement. C'est peut-être pour ça que les musiciens font des bœufs. Et les chevaux, qui eux ont un système digestif très fragile, se portent mieux lorsqu'ils mangent en musique.
Oui, c'est drôle, n'empêche. Pour finir, justement ?
Je vais vous faire écouter un extrait de mon chant relaxant Ayom, issu de l'album de Laurence Topnicki, Odayam.
Tout de suite mieux. Merci beaucoup, Carole Serra.
Merci, Jean-Marie.
On vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, je rappelle, tous vos conseils musicaux comme Prosaïque, d'ailleurs, sont à retrouver sur votre site carolserra.com. À bientôt.
Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serra.
Avec Superdiète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Maxouti.com, un max d'outils à prix mini, présente
Sud Radio, le journal des sports.
Et maintenant qu'on a fini de s'étirer, à la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas.
Perpignan douché par Clermont, La Rochelle écrasée par Bordeaux, c'est du top 14 à suivre évidemment. Soir de multiplex en Ligue 1 ce soir, on y revient. Et puis la Flamme qui continue son bonhomme de chemin. Retour dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui.
Mais on commence par la douche froide pour les Catalans. C'était hier contre Clermont. L'USAP s'est incliné à domicile.
Et pour la première fois de l'année, et après 5 victoires d'affilée, Perpignan s'est incliné 28 à 35. Tom Ecochard, demi de mêlée, pointe un manque de maîtrise.
Déçu, frustré. Le match a été compliqué, on a eu du mal à enchaîner le temps de jeu, beaucoup de déchets. Ils nous ont mis un mal dans les rucks, ça a été compliqué d'avoir la continuité. Voilà, les dernières 20 minutes un peu cauchemardesques qui font qu'on perd aujourd'hui.
Une déception au micro Sud Radio de Rémi Ruggiero. Et avec cette défaite, Perpignan dit certainement adieu à son rêve de phase finale.
Ah, ils sont pas sûrs. On entendait des supporters hier qui disaient non, on a encore une petite chance, on verra, mais ça va être difficile. Vous avez raison. De son côté, en tout cas, Bordeaux-Bègles frappe très fort contre le Stade Rochelais.
Victoire 34 à 14 après 4 revers à domicile contre La Rochelle, l'UBB a renversé la vapeur et même pris le bonus offensif à Chaban-Delmas hier. Les autres résultats de top 14, Bayonne s'est imposé pour la première fois de la saison à l'extérieur et en plus contre le Racing, 37 à 28. Montpellier désabusé après sa courte défaite contre Castres, 27 à 26. Toulon l'emporte sur Lyon, 30 à 24 et Oyonnax se rapproche un peu plus de la relégation après s'être incliné contre Pau, 39 à 17.
Oui, c'est cruel, effectivement, une journée de top 14 qui continue ce soir sur Sud Radio avec le duel au sommet entre Toulouse et le Stade Français.
Et les Rouges et Noirs veulent reprendre la première place du classement. Du beau jeu au programme du choc des leaders ce soir. On a hâte comme cet auditeur hier au micro de François Triot.
On est dans une période, dans une telle morosité ambiante en permanence, le Stade Toulousain, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que ça fait bien fou au moral. Quand on n'a pas le moral, on regarde le Stade Toulousain, ça va de suite mieux.
On note l'idée. Coup d'envoi à 21h05, Ernest Vallon ce soir.
Un match à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous tous supporters d'ailleurs, 0826-300-300. On vous donne la parole dans Sud Radio Rugby tous les soirs. Ce soir, c'est aussi du football, Morgan. Multiplex de la 33e journée de Ligue 1.
Objectif Ligue des Champions pour Lille qui affronte Nantes. C'est à 21h comme tous les autres matchs. Rennes veut rester devant Marseille en battant Lens. Montpellier reçoit Monaco. Marseille lui joue Lorient. Strasbourg peut mettre fin au maintien de Metz. Clermont accueille Lyon et puis le PSG reçoit le TFC. Ce sera, vous le savez, le dernier match de Mbappé au Parc des Princes.
Effectivement, le parc qui va dire adieu à son prince comme le dit le journal Le Parisien aujourd'hui en France. On passe au football féminin, la D1 Arkema, le PSG en finale.
Oui, il s'est imposé hier contre le Paris FC, c'était au tir au but.
Effectivement, la flamme olympique maintenant qui sillonne toujours la France. Morgan Thomas est de retour dans les Bouches-du-Rhône ce dimanche après un petit incident.
Notamment à Arles et Aix-en-Provence. Au total, ce sont 400 villes-étapes qui verront la flamme passer pour 100 jours de magie et de trêve, selon Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
Mieux qu'une trêve olympique, les polémiques vont se mettre en pause pour laisser de la place aux festivités aux quatre coins de la France, métropole et territoire ultramarin compris. Plus de 200 clubs 2024, partout en France, 2000 projets labellisés Olympiades culturelles, un dispositif qui répond à deux objectifs. Embarquer la population et contribuer au financement du COJOP. Car oui, ce sont bien les collectivités locales, départements et municipalités qui payent pour avoir cet honneur. Accueillir la flamme engendre de toute évidence un coup de projecteur sur la ville. Chaque département doit payer 180 000 euros au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Les sponsors, eux, déboursent environ 360 000 euros, soit au total 540 000 euros par département visité. Sur retombée économique, les touristes et les 2 à 3 millions de spectateurs uniques devraient générer entre 1,4 et 3,5 milliards d'euros jusqu'à la fin des Jeux. Et pour que la fête soit belle, soutenons nos champions pour qu'effectivement la France se classe dans le top 5 des nations comme le souhaite notre président.
Et médaille d'or à Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et puis en bref, Jean-Marie Pogacar a de nouveau remporté le Giro hier, la 8e étape. 3e succès en Italie, le Slovène conforte donc son maillot rose. Mais attention, le Giro c'est long, soulignent ses concurrents, on verra ça.
Exactement, magnifique tour d'Italie en tout cas. Merci beaucoup Morgan Thomas, on vous laisse remonter en selle tout de suite. Il est 8h57 à suivre. Tiens, Vincent Chaudel disait qu'on allait essayer de faire la trêve et d'arrêter de polémiquer. Ben, il nous connaît mal Vincent Chaudel. On va parler de l'Eurovision après le journal de 9h sur Sud Radio avec Yvan Cujous. Comment transformer un concours de chant en polémique internationale? On y revient juste après le journal.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Sud Radio Axe-les-Thermes. 103. Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
1664 Blanc présente.
À la French. À la French, c'est quoi?
C'est quoi? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 Blanc.
C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 mai. Bélier, aujourd'hui vous décidez de voir la vie en rose et vous avez raison. Profitez de ces sentiments amoureux sans penser au lendemain.
Taureau, votre besoin d'évasion peut vous faire oublier des choses importantes. Ne vous dispersez pas aux quatre vents.
Gémeaux, aujourd'hui, jovialité et amusement sont au programme de la journée. C'est le moment de profiter pleinement de la vie.
Cancer, réconciliation.